rentré du Mbujimayi au Kasai Oriental. J'ai refusé totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. La RDC perd une place en matière d'amélioration du climat des affaires. Classée à la 180e place sur 125 pays en 2012, elle occupe maintenant le 181e rang dans le classement Doing Business 2013. Le classement Doing Business se base sur 10 indicateurs, notamment la création des entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts et la protection des investisseurs. Le rapport 2013 de Doing Business porte sur les indicateurs observés au cours de l'année 2012. Que proposez-vous pour l'amélioration du climat des affaires en RDC? Nous en parlons en ligne tout à l'heure avec M. Janvier Kiambou, expert chargé des réformes au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Titi Mputu, Sylvie Kachala sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Guy Manzangou. Pierrot et la Meji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Le rapport Doing Business de la Banque mondiale a été publié le 23 octobre 2012. Nous en parlons avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le climat des affaires en RDC, vos préoccupations, mais aussi vos contributions, points de vue et commentaires sont les bienvenus. Tout à l'heure, nous allons avoir en direct dans cette émission Monsieur Janvier Kiambou, expert chargé des réformes au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Mais en attendant, nous avons beaucoup de personnes sur la ligne qui voudraient donner leur point de vue, mais aussi formuler des propositions pour l'amélioration des climats des affaires en RDC, comme Gaston qui nous appelle d'Idiofa en province orientale, mais nous avons aussi en ligne M. Médard Moulangalo-Lakabwanga qui est politicien, mais il a été aussi membre de la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. Il pourra nous dire, avec un œil d'un politicien bien sûr, quels sont les efforts qu'il faudrait fournir aujourd'hui pour améliorer les climats des affaires en RDC, et notre invité pourra passer dans cette émission pour pouvoir compléter les points de vue des auditeurs, mais aussi réagir pour répondre à vos préoccupations. Nous commençons avec vous, Gaston. Vous êtes à Idiofa, dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde.
Et pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer les climats des affaires en RDC?
Oui, disons que qu'est-ce qui doit être fait? Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites pour améliorer les climats des affaires en RDC. Ça, personne ne l'ignore. Mais je veux plus... aborder l'aspect du droit de l'OADA. Donc, je vais aborder l'aspect du droit de l'OADA. Vous savez que d'ici, ça ne date pas de longtemps que notre État est allé, disons, adhérer au traité de l'OADA concernant les droits, surtout les droits qui régissent les affaires. Mm-hmm. Ici, je vais parler le droit des sociétés, tout cela. Donc, du fait que nous sommes partis à l'OADA, on suppose que c'est ce droit-là qui doit s'appliquer dans les cas d'espèces concernant les affaires dans notre pays. Je pense que c'est même ça la raison qui avait poussé notre État d'aller adhérer, disons, à ce traité-là, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment une protection juridique sur le plan national qui pouvait rassurer les investisseurs étrangers qu'en RDC, il y a une protection, surtout sur le plan juridique. Que j'ai dit que nous sommes allés adhérer à ce traité-là qui est d'application déjà sur notre territoire. Mais à mon avis, je pense que c'est bon. Actuellement, on nous parle de l'amélioration du climat des affaires parce que nous constatons aussi notre gouvernement très actif en ce qui concerne les contacts avec les investisseurs qui vont venir jusque-là parce que nous sommes étant partis au traité de l'OADA. Mais il y a beaucoup d'inconvénients en tant qu'un simple patriote, un humble patriote, par ce fait-là que notre État est allé adhérer à ce traité-là. Donc, laissez-moi vous donner un exemple.
Mm-hmm. Allez-y rapidement, oui.
Oui, oui. Vous savez que il y a même une confiscation en ce qui concerne les attributions de nos autorités, par exemple législatives. Vous verrez que désormais, les lois qui devraient être prises ici sur le plan national ne seront plus prises ici. Ce sont des actes uniformes qui seront prises au niveau du Conseil, disons le Conseil des ministres, qui est un organe de l'OADA, qui a compétence à prendre les règles qui seront appliquées sur l'étendue de territoire de tous les États partis à ce traité-là. Et nous perdons, vous savez, à ce niveau, nous perdons maintenant cette souveraineté-là de pouvoir, par rapport à nos réalités ici, concevoir les règles qui sont propres à nous. On donne cette souveraineté à cette organisation ici. Mais aussi, nous perdons aussi une portion de compétences en ce qui concerne nos juridictions. Vous savez qu'il y a une cour qui est créée là-bas au niveau de l'OADA, qui connaîtra cette fois ici les affaires traitées au niveau des premier degré, deuxième degré au niveau des territoires, disons, des justices des États partis, qui connaîtront maintenant la cassation au niveau de cette cour-là. Vous voyez que non, une cour
voilà, oui, mais si on
qui
revient,
est là-bas
oui,
qui prend
oui,
la décision
Gaston,
et une décision prise au
voilà,
niveau national,
voilà,
c'est à mon avis aussi une manière de... Mm-hmm. Mais la protection, c'est cette manière. Les investisseurs ont voulu que nous soyons adhérés là-bas, nous sommes partis adhérer. Et maintenant, ils vont venir sous protection de ce traité-là.
Voilà. Nous, si on vous écoute bien, parce qu'il faut permettre aux autres de comprendre, Gaston, vous dites
oui.
Qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites d'une manière interne hein, pour l'amélioration des climats des affaires. Vous avez pris l'exemple de l'adhésion de la RDC à l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation des climats des affaires, disons, qui est l'Organisation pour l'harmonisation des affaires, je crois bien, en Afrique. Vous dites que c'est intéressant. C'est de la paix déjà donner les garanties aux investisseurs qui peuvent venir pour travailler à RDC, mais vous êtes aussi très inquiet. Je parlais de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Mais votre inquiétude, c'est que vous pensez que s'il y a aujourd'hui un différent qui oppose la RDC avec un groupe d'investisseurs, par exemple, nous perdons le contrôle dans le sens que les juridictions congolaises ne pourront pas connaître de ces différents, de ces litiges qui ne peuvent être résolus qu'au niveau de l'OADA, et vous êtes très inquiet, vous pensez que la RDC perd, si on peut dire un tout petit peu, une certaine partie de son pouvoir. C'est ça votre inquiétude, mais d'un côté vous pensez que c'est mieux parce que cela nous met sur un pas déjà dans l'amélioration des climats des affaires. Mais on pourra voir tout à l'heure beaucoup plus de précisions avec notre invité pour voir quels sont les avantages aujourd'hui, le fait qu'on puisse adhérer à l'OADA, mais y a-t-il aussi des inconvénients lesquels on pourra recadrer tout cela. Merci beaucoup de votre point de vue. Vous nous avez appelé d'Idiofa dans la province de Bandundu. Nous revenons ici à Kinshasa, nous avons monsieur Médard Moulangala Wakabwanga sur les antennes. Bonjour monsieur.
Bonjour Radio Okapi.
Nous vous avions suivi au cours de l'émission Dialogue entre Congolais. Vous avez fait un débat, c'était un débat purement politique bien sûr, avec tous les autres invités autour de ces sujets sur l'amélioration du climat des affaires suite à ces derniers rapports Doing Business de la Banque mondiale. Mais nous revenons encore à vous. Vous avez été à la Commission économico-financière au niveau de l'Assemblée nationale. Alors quand on regarde ce qui a été fait, ce qui doit se faire, pour vous, qu'est-ce qui reste à être fait aujourd'hui par la RDC pour améliorer le climat des affaires et retrouver une bonne cote au niveau de ces rapports à la prochaine. Si on peut juste se projeter dans l'avenir par rapport à ce qui a été déjà fait.
Écoutez, je voudrais me référer simplement à ce qui a été déclaré par la Fédération des entreprises congolaises dans son développement. Elle avait salué les initiatives prises par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires. Mais elle avait néanmoins souligné à l'époque que les réformes prévues sont connues, sont bien identifiées, une programmation est faite, une feuille de route est là, mais dans la pratique, il y a une très grande lenteur administrative à faire appliquer ces mesures-là, notamment en province. Donc le problème qui est posé n'est pas celui de prendre les décisions qui s'imposent pour le Bureau du climat des affaires. Le problème, c'est l'application, c'est la mise en œuvre, c'est la capacité du gouvernement à faire aboutir ces réformes sur le terrain. Le vrai défi est là, c'est le défi de l'action gouvernementale pour l'application des mesures qui peuvent contribuer à améliorer le climat des affaires.
Mais quand on regarde aujourd'hui sur terrain, vous dites qu'il y a des lenteurs dans la mise en œuvre, surtout en ce qui concerne les provinces, et vous dites qu'il y a le problème au niveau de l'accélération, bien sûr. Mais vous, en tant qu'acteur politique aujourd'hui, quelle est votre part des responsabilités auprès du pouvoir public pour qu'enfin toutes ces réformes puissent être accélérées et qu'on puisse palper cette mise en œuvre? Doit-on dire aujourd'hui que c'est un problème du gouvernement qui doit les faire, mais au niveau de la classe politique, en tant qu'acteur politique, votre part des responsabilités dans cela?
Bon, notre part de responsabilité est toujours de tirer la sonnette d'alarme. Et pour cela, les collègues qui sont à l'Assemblée ont des mécanismes qui sont prévus par la loi qui autorisent le contrôle de l'action gouvernementale. C'est pourquoi la motion présentée l'autre jour par l'honorable Bamporiki était essentielle. On ne peut pas continuer à approuver les budgets sans au préalable avoir vu de quelle manière cela a été utiliser, consommer, dépenser. Donc la mission de contrôle qui est dévolue aux assemblées d'une manière générale doit être clairement exercée. À ce niveau-là, nous savons qu'aujourd'hui, dans les assemblées, la majorité présidentielle a une majorité à tous les niveaux et qu'un vote mécanique est là pour garantir que ces points de vue puissent passer. Ce que nous devons faire, nous, de l'opposition, c'est continuer à utiliser les textes qui existent pour poser les problèmes en termes de contrôle parlementaire. Plus tard, lorsque nous aurons l'occasion, il faut améliorer la manière dont ce contrôle est exercé. Aujourd'hui, je trouve par exemple que le bureau de l'Assemblée nationale, notamment, a trop de pouvoir dans la sélection ou dans la programmation des questions qui doivent être débattues. Donc, c'est un combat à long terme. Nous devons absolument, là où chacun se trouve, relever les faits qui dérange, les communiquer et pousser au débat. Plus que cela, à ce niveau, nous ne pouvons pas faire. Mais j'invite mes collègues, mes amis qui sont à l'Assemblée, de faire ce travail-là pour s'assurer que le contrôle soit effectif. Parce que sans contrôle, il n'y aura rien qui pourra se faire de manière acceptable et convenable. Rappelez-vous, la dernière législature de 2006-2011, il n'y a eu qu'un seul rapport qui a été effectué par l'Assemblée sur l'exécution du budget de l'État. Ce rapport couvrait la période du premier semestre 2009. Le rapport a été fait, le rapport a été éloquent, le rapport a relevé les faiblesses et les problèmes, a fait des recommandations. Malheureusement, ce rapport a été envoyé à la Cour de comptes et apparemment là, il a été enterré. Donc, voyez-vous, il faut aussi qu'il y ait la volonté politique de faire en sorte que ce qui a été relevé comme problème ou difficulté soit adressé par les institutions compétentes et que les sanctions positives ou négatives puissent tomber quand il le faut.
Voilà, merci beaucoup Médard Moulangalo-Lakabwanga pour ces précisions vraiment d'une manière concise dans cette émission. Il faudrait de la volonté politique par des réformes. Elles existent, elles sont déjà prises au niveau des institutions, mais alors quitte à avoir la volonté au niveau du pouvoir public de pouvoir aller jusqu'au fond avec ces réformes, de les appliquer pour que on puisse palper cette amélioration du climat.
Oui, monsieur, je pense qu'il y a un problème d'efficacité gouvernementale. C'est ça qui est au nom du problème, l'efficacité de l'action gouvernementale.
Okay.
Et peut-être lié à ça, se pose un problème d'autorité. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas application sur terrain, on doit se poser la question de savoir pourquoi. Et peut-être y a-t-il une question d'autorité au niveau de ceux qui doivent décider. Et parce qu'on parle du gouvernement, au niveau de la primature. Donc il y a une question d'efficacité, une question d'autorité. Voilà les deux questions sur lesquelles je pense que le gouvernement devrait agir aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Nous avons aussi un autre auditeur qui nous appelle de Matadi en province orientale, à Matadi dans le Bas-Congo plutôt. Je pensais déjà à un auditeur de la province orientale, Matadi c'est dans le Bas-Congo. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, Ernest, d'être avec nous sur les antennes. Vous avez suivi le point de vue et surtout la piste des solutions tracée par Monsieur Médard Moulangala-Louakabouana. Nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour parvenir à l'amélioration des climats des affaires. Et puis, c'est qu'il y a aussi une implication directe sur notre position que nous devons occuper dans ces différents rapports. Aujourd'hui, quelles sont vos pistes des solutions, Ernest?
Merci bien. Moi, je pense que le climat des affaires, les indices sont déjà à chercher dans ce que nous appelons indices de développement humain. Mm-hmm. Parce que le climat des affaires, ce sont des hommes qui travaillent, ce sont des hommes qui produisent et ce sont des hommes qui sont les premiers bénéficiaires. Les expatriés, lorsqu'ils arrivent ici, ce que nous appelons communément investisseurs, ils ne peuvent pas investir dans un pays où il y a bruit et bottes. Ils ne peuvent pas investir dans un pays où les esprits sont surchauffés, il n'y a pas la paix du cœur, et chacun s'attend peut-être à un demain, à un lendemain qui sera surchauffé. Alors, lorsque les investisseurs arrivent, je pense, ceux qui sont censés être en contact avec eux, les gouvernements, les ministres, qui dans chaque domaine, les investisseurs arrivent, ils reçoivent ces expatriés dans quelle psychologie, domination ou de les exploiter dès qu'ils arrivent. C'est la loi. Lorsque la loi n'est pas claire là-dessus, les investisseurs vont se rendre compte que nous allons faire des fausses affaires ici. La comptabilité congolaise, les textes qui garantissent ou qui garantissent les expatriés qui veulent investir ici, est-ce que c'est bien détaillé? Lorsque nous signons des accords à gauche, à droite, c'est pour que chacun se retrouve. Mmh. Mais nous, comment nous réalisons que parfois, ce n'est pas la loi qui est mise en avance, ce sont les paroles, les intérêts de la personne censée être en contact avec les investisseurs. C'est là où les choses sont bloquées. Alors, lorsque on est là, je donne un exemple. Mmh. Nous avons un pays où il y a encore des espaces à construire. Le gouvernement n'a pas construit des bâtiments pour donner ça en location aux expatriés qui arrivent. Mais l'expatrié qui arrive construit lui-même, achète le terrain, il construit, il fait tout le faire, et après, peut-être pour 10 ans, 15 ans, qu'il va exploiter le terrain sans que le gouvernement congolais ne se retrouve dans ces bâtiments-là. Mm-hmm. C'est un manque d'années pour la République. Donc, il faut que les textes juridiques sécurisent les pays, sécurisent les investisseurs, et que ceux-là aussi se rendent compte, lorsque nous allons travailler, l'État gagne quelque chose, et là, l'État surveille toute sortie des fonds ou des matières à exploiter, venir de façon frauduleuse. Mmh. C'est comme ça que la population ne se trouve pas lorsqu'on voit l'indice du développement humain, c'est négatif. Merci. Les investisseurs sont dans l'insécurité, alors les choses ne peuvent pas bien tourner.
Merci beaucoup, Ernest.
Il n'y a rien de spécial à attendre, et c'est que nous pouvons être les derniers dans les classements internationaux.
Merci, Ernest. Vous avez d'abord évoqué le problème de l'insécurité d'une manière globale, mais vous êtes revenu aussi par rapport à l'insécurité juridique. Vous pensez que pour y arriver, il faut d'abord qu'on puisse avoir des textes juridiques qui garantissent, bien sûr, une certaine sécurité par rapport aux investisseurs, mais il y a aussi les incertitudes politiques. Vous pensez qu'il faut, au niveau du pouvoir public, avoir des mécanismes de contrôle qui permettent à la traçabilité, que ce soit au niveau des recettes qui sont collectés pour les trésors publics, mais aussi la traçabilité dans l'exploitation en ce qui concerne l'exploitation minière. C'est ce que vous avez évoqué dans votre proposition. Merci beaucoup, Ernest. Vous pensez qu'il n'y a que cela qui doit être fait pour que nous puissions nous retrouver. Jacques, vous êtes en Boujimaï, au Kassai oriental. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour à l'invité, ainsi que bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez suivi les uns et les autres. On est revenu par rapport à l'amélioration du climat des affaires. Plusieurs propositions. Notre ami Gaston Didiouf a pensé que le fait qu'on ait adhéré à l'OADA, c'est déjà une garantie aujourd'hui juridique pour les investisseurs. Il y a honorable Médard Moulangala qui est revenu en tant, bien sûr, qui a un œil politique dans tout cela, qui demande à quel la mise en œuvre des réformes qui sont déjà initiées au niveau du pouvoir public et l'efficacité de l'État dans les contrôles et l'application. Ernest de Matadi lui a parlé des textes juridiques qui doivent garantir, n'est-ce pas, une sécurité juridique pour les investisseurs, mais aussi la traçabilité au niveau de l'exploitation et des collectes des recettes pour l'État congolais. Vous êtes en bougement. Il y a tout ce qui a été dit. Quel est votre point de vue sur ces sujets autour de l'amélioration du climat des affaires?
En tout cas, merci beaucoup, M. Thiro. Moi, je m'inscris dans la logique de l'honorable Moulangala. Mm-hmm. En tout cas, si je l'ai bien suivi, il est beaucoup revenu sur la volonté politique. C'est-à-dire, on a de bonnes lois, mais la pratique de ces lois-là. C'est ainsi que moi, je pense que la volonté politique, un peu de volonté politique, peut encore contribuer dans l'amélioration du climat des affaires. Je m'en vais juste mes conseils sur, donc en rapport avec l'indice, la desserte en énergie électrique, puisque ça fait partie justement des indices que l'on exige pour pouvoir améliorer les doing business d'un pays. Alors par rapport à ça, je voudrais parler un peu de la situation que nous vivons ici dans la province d'Afrique orientale. On a une province qui il y a beaucoup de eaux à même de pouvoir desservir cette province en électrique, en énergie électrique, et de façon à attirer les investisseurs. Mais qu'est-ce que l'on observe? Nous vivons dans les noirs, alors que les courants nous passent au-dessus de nos têtes et vont aller éclairer la province de Dikatanga et même sortir le pays. Alors, mais comment voudrez-vous, dans cette circonstance, les investisseurs pourraient venir investir dans cette province ici? Ça fait très longtemps, depuis l'inflation passée, on nous promettait toujours que les investisseurs viendront dans cette province jusqu'à aujourd'hui. L'un des problèmes,
l'électricité. Oui.
Moi, je pense que s'il y a une dose de volonté politique, cela peut encore donner le souffle pour essayer de pouvoir améliorer le climat des affaires.
Merci beaucoup, Jacques Dembujima. Et vous avez pris dans votre intervention l'indice qui est un des indices, bien sûr, les raccordements à l'électricité. Vous évoquez le fait que le courant Dinga, je pense bien qu'il part de la province du Bas-Congo en passant par le Bandundu, les poteaux passent par le Bandundu, le Kassai occidental, le Kassai oriental vers le Katanga. Vous inquiétez qu'il y a beaucoup de promesses, mais bon, les investisseurs ne peuvent pas venir au Kassai oriental aujourd'hui pour investir parce qu'il y a un problème de l'électricité qui se pose. Et dans ces conditions, c'est difficile qu'on puisse évoluer, qu'on puisse améliorer. Vous souhaitez qu'il y ait la volonté politique pour accorder l'électricité au Kassai oriental. Cela peut attirer les investisseurs. Merci beaucoup, Jacques. Nous avons à Kananga, à côté, bien sûr, de Mbujimayi, Tumba, qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Tumba, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour. Et là, on a perdu Tumba de Kananga au Kassai occidental. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission. Tout à l'heure, nous allons avoir sur les antennes Monsieur Janvier Kiambou, qui est expert chargé des réformes au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC, avec qui nous allons bien sûr partager les préoccupations des auditeurs et leurs pistes et des solutions qu'ils ont présentées dans cette émission. Il pourra aussi nous dire les efforts qui sont faits sur terrain, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste à faire? On va en voir cela ensemble avec lui. Mais nous avons aussi les auditeurs qui nous ont écrit par la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Elisha Trila Bialungu et Debukavu dit ceci: il faut seulement que le gouvernement renforce le commerce interne. C'est ce qu'il lui propose. ADGR Manicola Debutembo: je pense qu'il faut une réforme économique et financière pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Chris Solide de Kinshasa: il faut plus de transparence et des responsabilités dans les traitements des dossiers. Les politiques, cela veut dire que ce soit le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, doivent faire montre d'un engagement sans complaisance dans toutes ces réformes. Baby Gustave Tumba de Kikwit: l'amélioration du climat des affaires en RDC doit passer d'abord par la lutte contre la corruption et la mésession, le respect des textes réglementaires et des lois. Tout cela doit être pris en compte pour améliorer le climat des affaires. Il a rejoint presque les points de vue des autres auditeurs qui sont déjà succédés sur les antennes. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée bien sûr à l'amélioration du climat des affaires.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux Auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous avons aussi ce message de Emmanuel Kalinzi de Igoki Kabare, c'est dans la province du Sud Kivu. Il dit ceci: le gouvernement congolais devrait améliorer le climat des affaires en soutenant les investisseurs privés. Il faut aussi lutter contre l'insécurité qui est à la base et la politique de satisfaire seulement ceux qui sont au pouvoir. Je crois bien qu'il rejoint notre ami Ernest qui a évoqué le problème du trafic d'influence, que ce soit par exemple dans l'octroi de marché, dans l'octroi de certains titres. Hein. Il a évoqué le fait que les gens oublient la loi pour se présenter eux-mêmes, en oubliant bien sûr ce qui est dit dans les textes juridiques. Billy Amissi Bosibo de Kisangani en province orientale, que notre gouvernement revoie sa politique de taxation, car trop de taxes non canalisées découragent les investisseurs à venir s'installer au pays, voire le fils du pays sont en difficulté pour commencer une affaire eu égard aux multiples taxes. Il a parlé d'une taxation exagérée. Voilà autant des pistes, des solutions proposées par les auditeurs dans cette émission consacrée bien sûr, mais on se rappellera aussi que le gouvernement de la RDC par la bouche du ministre Célestin Vunabandi du plan bien sûr, hein, était revenu pour, en réagissant bien sûr à ces rapports pour dire que dans le rapport 2014 qui sera publié en 2013, il pense bien sûr qu'on ne pourra pas manquer d'enregistrer un mouvement significatif suite notamment aux efforts des réformes en cours sur l'ensemble des indicateurs. Il y a plusieurs efforts qui sont fournis, selon le ministre Célestin Vunabandi, mais je vous informe que nous sommes en train de lutter pour joindre notre invité, expert du comité de pilotage avec qui nous allons partager ses préoccupations. Mais en attendant, nous avons Samy qui nous appelle des Songololo dans la province du Bas-Congo. Bonjour Samy. Samy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Voilà, nous aussi nous vous écoutons, nous partageons ensemble hein, les pistes et des solutions que nous formulons en dépendant bien sûr de ce qui doit être fait par rapport au rapport de la Banque mondiale Doing Business qui nous classe 180e bien sûr sur l'amélioration du climat des affaires. Mais pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on puisse sortir de ces tableaux? Pour y sortir, il faut bien sûr améliorer le climat des affaires. Alors, quelles sont vos pistes et des solutions?
Voici ma proposition. D'abord, la volonté des politiciens congolais. Puisque nous voyons d'abord dans les pays, rien qu'avec le budget du pays, l'Assemblée nationale a du mal à contrôler l'exécutif. Pour preuve, l'exécutif a établi un budget, mais la majorité refuse que le Premier ministre puisse expliquer comment il a exécuté le budget. Alors, comment doit-on comprendre que quelque chose qui est fait par le gouvernement eux-mêmes, et maintenant, que le Premier ministre était incapable d'expliquer comment il a exécuté le budget. Dans le cas des affaires, telles que classées à 180 pays, ainsi de suite, nous voyons que sans cette volonté, d'abord interne, pour améliorer rien que les conditions de vie de la population, parce que d'abord, ces indicateurs qui prouvent qu'il y a amélioration des affaires au Congo, nous pouvons peut-être dire que exclure la pauvreté, donc être lutté contre la pauvreté. Mais aussi longtemps que l'exécutif a du mal à exécuter le budget du pays, je crois que rien que pour notre préoccupation sur la réduction de la pauvreté, c'est une difficulté. Alors, pour que les investisseurs viennent, si peut-être même au Congo, nous sommes incapables de nous gérer à l'interne, comment est-ce qu'on peut gérer ceux qui peuvent venir nous rejoindre pour améliorer les affaires dans les climats tels que nous le souhaitons? C'est pas difficile. Donc, c'est un problème où, en tout cas, à chaque niveau, les institutions du pays doivent prendre conscience que le pays doit marcher, mais si tout le monde s'implique, parce que pour le moment, en tout cas, nous avons des doutes. Puisque depuis Mobutu jusqu'à présent, aucun budget. Le Congo fonctionne comme un pays, quelqu'un qui sort avec l'argent en poche, peut se le dépenser, ainsi de suite. Mais de compte à rendre à personne. Alors que le budget, c'est la contribution des Congolais. Donc, à tout prix, le gouvernement doit rendre compte au peuple congolais ce qu'il a encaissé et ce qu'il a dépensé. Mais malheureusement, le Parlement ne joue pas son rôle. C'est le Parlement qui est en train de causer du tort au gouvernement. C'est pour cela que quand on remarque qu'il y a des erreurs à l'exécution du budget passé, il y a moyen de corriger. Mais comme on est en train d'étouffer et effacer cela, comment est-ce que le gouvernement peut savoir que nous avons mal géré?
Voilà, merci beaucoup. Oui, voilà. Merci beaucoup, Samy. Vous êtes à Congolo. Vous pensez que tout doit d'abord passer par une volonté politique. Hein? Et d'ailleurs, vous dites que si on a des difficultés à exécuter aujourd'hui les budgets, depuis longtemps, on a des problèmes sérieux dans l'exécution du budget. Cela pose aussi des vrais problèmes hein, pour savoir ce que nous faisons, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Et dans ces conditions, il sera difficile qu'on puisse parvenir à donner des garanties aux investisseurs. Pour vous, tout passe aussi par l'amélioration des affaires d'une manière interne. Et tout ça, ça va être une implication de tout le monde aussi, mais vous avez évoqué la volonté politique. Je signale à nos auditeurs que notre invité est déjà en ligne. On pourra partager avec lui ensemble toutes ses préoccupations. Monsieur Jean-Pierre Kiambou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Okapi.
Voilà, nous allons écouter Pierre qui est à Kananga et on va revenir à vous pour ramasser l'ensemble des préoccupations des auditeurs hein, sur les efforts qui sont fournis d'une manière globale dans l'amélioration des climats des affaires. Mais nous allons vous demander de pouvoir diminuer le volume de votre poste et récepteur. Hein. Peut-être vous pouvez vous mettre un peu à l'écart. Il y a des gens peut-être tout autour de vous qui veulent bien suivre l'émission. Comme ça, vous allez suivre l'interactivité à travers les téléphones portables. Les autres personnes peuvent rester à côté du poste et récepteur. Cela va éviter ces effets retour sur les antennes. Pierre, vous êtes avec nous de Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les uns et les autres sur cet échange entre vous et nous sur le climat des affaires. Pour vous, qu'est-ce qui peut être fait?
Pardon?
Qu'est-ce qui peut être fait pour vous pour améliorer le climat des affaires en RDC?
Ok, c'est monsieur Pierre à Kananga. Je suis...
Oui, Pierre, on a des petits soucis avec votre ligne, vous sortez en train de couper. Déplacez-vous un tout petit peu, mais au même moment, continuez à donner votre point de vue, Pierre.
Ça va, monsieur le journaliste, par rapport au sujet que vous venez d'évoquer, je trouve qu'il est normal d'abord qu'on améliore d'abord la condition de vie. Donc, ça dépend d'abord de l'amélioration des affaires internes par rapport à notre gouvernement central. Parce que vous venez de voir notre premier ministre qui vient d'être appelé pour alerter pour voir comment se passent les élections en Amérique. Donc lorsqu'il est allé là, ce n'est pas pour faire des blagues ou faire quoi. Il a aussi observé et aussi voir comment et quelles sont les attitudes qu'on peut adopter pour aussi maintenir l'ordre et aussi améliorer la condition dans notre vie, dans notre pays. C'est pourquoi nous aussi, dans le niveau interne, nous devons donc chercher d'abord à nous prendre en charge et puis les investisseurs qui viendront donc nous trouver nous déjà capables de gérer nos affaires internes. Là maintenant, le développement de notre pays et aussi l'amélioration.
Voilà. Et si on vous suit bien, Pierre, oui, voilà. Si vous avez fait allusion, n'est-ce pas, aux élections aux États-Unis, pour dire que le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC a été invité là-bas, beaucoup d'autres Congolais aussi invités hein, pour assister au déroulement des élections. Vous pensez qu'il faudrait peut-être voir ce qui s'est fait ailleurs, l'expérience des États-Unis, voir comment améliorer sur les plans politiques la situation en RDC. Cela peut donner des garanties aux investisseurs quand ils trouveront que non, il y a des garanties politiques au pays. C'est ce qui a été dit aussi par notre ami Ernest de Matata. Nous allons revenir maintenant à notre invité, M. Janvier Kiambou. Vous êtes expert chargé des réformes au comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Nous sommes partis dans cette émission du constat, hein, bien sûr, par rapport à ce rapport Doing Business de la Banque mondiale. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà dit parce que nous sommes maintenant en train de formuler des propositions pour regarder dans l'avenir. Vous avez peut-être avant de passer sur les antennes suivi les préoccupations des auditeurs, mais plus aussi leurs propositions. Tous ont parlé de la volonté politique, de la législation, ils ont parlé de l'insécurité, il y a l'ancien député Moulanga Lamedar, lui qui a parlé de la mise en œuvre des réformes qui ont été déjà initiées au niveau de votre structure, qu'il faut la volonté pour les appliquer. Eu égard à tout ce qui a été dit par les auditeurs, qu'est-ce que vous pouvez compléter par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau du pouvoir public dans l'amélioration du climat des affaires?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Radio Okapi. Merci, les auditeurs de Radio Okapi. Je suis heureux d'une chose, c'est que la plupart des intervenants reconnaissent que des efforts sont faits.
Mm-hmm.
effectivement, à ce jour, plusieurs réformes ont été menées. Vous avez parlé d'indicateurs Doing Business. Dans pratiquement l'ensemble des 10 indicateurs du Doing Business, des réformes courageuses sont menées. Et maintenant, on est sur d'autres réformes audacieuses, courageuses, qui pourront faire évoluer la position de la RDC dans le prochain rapport Doing Business. On pourra peut-être y revenir. Mais pour prendre d'abord notre ami Gaston du Diofan, qui a parlé de l'OADA,
oui.
C'est vrai, le droit OADA, c'est un droit, c'est une réforme. C'est même, je pourrais dire, la réforme phare de la feuille de route. Dans la mesure où cette réforme, impacte sur 5 indicateurs du doing business, à savoir la création d'entreprises, l'accès au crédit, la protection des investisseurs,
oui.
L'exécution des contrats, et le règlement de l'insolvabilité, en fait, c'est le régime des faillites, hein, l'apurement du passif des entreprises en liquidation. Au sujet de l'OADA, en fait, on se plaint de l'absence de sécurité juridique et judiciaire. L'OADA est en phase, en quelque sorte, de répondre à cette préoccupation. Les droits OADA vont nous permettre de renforcer la sécurité juridique et judiciaire dont se préoccupent les investisseurs. Et la Cour commune de justice, pour laquelle M. Gaston exprime des inquiétudes...
Des inquiétudes, oui, sur...
écoutez, je dois d'abord dire que dans tout traité, il y a en quelque sorte des concessions qui sont faites, il y a un abandon de souveraineté. C'est même pour cette raison qu'on dit que les dispositions de tout traité international ratifié, ces dispositions sont supérieures aux droits internes, c'est-à-dire supérieures à nos propres lois. Par rapport donc à la Cour suprême à la Cour commune de justice et d'arbitrage, M. Gaston dit qu'il y a un abandon de souveraineté, mais je voudrais lui faire observer, premièrement, que les litiges commerciaux commenceront par être examinés par nos cours et tribunaux internes.
Avant de recourir, bien sûr.
Ah oui, oui, oui. Au premier degré, je dis, au premier degré et au second degré. Donc, les affaires seront soumises devant les tribunaux de commerce. Et si une des parties n'est pas satisfaite, elles seront connues, examinées au niveau de la cour d'appel. Donc, il y a deux degrés de juridiction qui seront connus au niveau de nos juridictions internes avant d'arriver éventuellement, si une des parties n'est toujours pas satisfaite, au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il ne va intervenir donc qu'au niveau de la cassation.
Oui.
Je pense que c'est important de l'observer.
Okay.
J'espère aussi que... Il a compris que le Conseil des ministres, il légifère désormais, Conseil des ministres des pays membres de l'OADA, il légifère désormais la place de notre Parlement. C'est dans les concessions qui ont été faites en adhérant à l'OADA, parce que je l'ai dit, pour tout traité commercial, il y a des concessions, il y a un abandon quelque part de souveraineté qui est fait. Je salue l'honorable Luakabonga. Il a dit vrai, il y a un problème d'application des mesures. Un problème d'application des mesures, mais on y travaille.
Okay.
C'est vrai à Kinshasa, et même à l'intérieur, surtout à l'intérieur, c'est déplorable ce qu'on rencontre. Les mesures ne sont pas connues. Là où elles sont connues, elles sont exécutées partiellement ou simplement ignorées.
Oui.
Et il y a plusieurs raisons là-dessus. C'est quoi ? C'est l'appropriation qui est faible au niveau de nos administrations. Il y a aussi ces administrations qui sont elles-mêmes faibles et qui méritent un renforcement des capacités en matière de mise à niveau, en matière d'équipement.
Oui.
Et donc, on y travaille. Je pense que le gouvernement, qui est très très bien au courant de la situation, il travaille. Et c'est pour cette raison que je crois le 11 octobre, le ministre du Plan, enfin le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires, qui est présidé par le ministre du Plan, a organisé une réunion avec les secrétaires généraux, qui sont les patrons de l'administration. Et à cette réunion a notamment assisté le ministre de la fonction publique, qui gère l'administration publique. Mmh. Et au cours de cette réunion, les préoccupations du comité de pilotage ont été portées à la connaissance des secrétaires généraux, de manière à les impliquer dans la mise en œuvre des réformes qui ont été prises.
Mmh.
Et le dialogue a été ouvert, franc. Il a été demandé à l'administration publique, un, de diffuser, de transmettre toutes les réformes qui sont prises à tous les différents services du pays. Et lorsqu'on envoie ces réformes au pays, autant que possible que des mesures d'exécution soient prises, des mesures pour encadrer l'application, la mise en œuvre de ces différentes mesures. Si c'était un arrêté, éventuellement, le secrétaire général peut signer une circulaire pour accompagner l'application de la mesure dans tous les services.
Voilà, monsieur Kiyoko, voilà. Il y a par exemple monsieur Moulagal qui est revenu sur ces mots volonté politique. Ces mots ont été aussi évoqués par Ernest Jacques Dembujimaï et ça. Mais si on peut dans l'ensemble revenir à ça, pensez-vous que le manque de volonté politique peut avoir de l'impact sur le travail que fait le comité de pilotage aujourd'hui?
Absolument. La volonté politique, et l'honorable Lokabongo a raison, c'est le premier facteur de réussite d'un processus de réforme. La volonté politique, à ce jour, y est. Il suffit d'analyser l'ensemble des discours, des allocutions du Premier ministre. Il ne fait que marteler. Il suffit de voir la correspondance qu'il adresse aux membres de son gouvernement. Particulièrement sur cette question du climat des affaires, il insiste, il martèle, il demande que tout le monde s'implique. Mais il est important ici de souligner qu'au-delà de la volonté politique, l'amélioration du climat des affaires n'est pas seulement une affaire du gouvernement, monsieur le journaliste.
Ah bon, oui, allez-y.
Ah oui, absolument. Mmh. Il faut qu'on considère que c'est une affaire nationale. Et tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du domaine
civile,
de l'économie ou de la société civile, tous les acteurs doivent s'impliquer et considérer effectivement qu'on n'ira pas de l'avant si on n'améliore pas le climat des affaires, qu'on ne va pas se développer si on ne facilite pas le travail du secteur privé, si on ne facilite pas le travail des opérateurs économiques.
Voilà.
C'est une affaire nationale. Pour cette raison que les opérateurs économiques, qui sont en quelque sorte les premiers intéressés, sont invités à dénoncer éventuellement les déficiences qu'ils constatent dans les administrations au sujet de la mise en œuvre. Il en est de même de la société civile.
Okay.
Volonté politique, oui, elle est affirmée, je vous assure. Il faut qu'on renforce cette volonté politique par l'application de la sanction à l'encontre des services récalcitrants, de ceux qui veulent faire obstruction à l'exécution des mesures.
Voilà.
Mais
j'insiste
là-dessus, c'est une affaire de
tout
le monde,
voilà.
Y compris de la presse. La presse peut aider le processus,
ce que
le comité de pilotage, à porter son message.
Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, même d'ailleurs ensemble
c'est
avec
exact,
vous.
C'est exact, je le
voilà, garder la ligne,
le journaliste.
Voilà, garder la ligne, parce que nous avons encore deux auditeurs qui sont là. Ils vont compléter, vous pouvez vous permettre bien sûr de souffler un tout petit peu, le temps qu'ils puissent aussi réagir. Et nous allons revenir à vous, parce qu'on chemine vers la dernière partie de cette émission qui va vous permettre de répondre encore aux auditeurs et de pouvoir la conclure. Ingénieur Mangoyo, vous êtes ici à Kinshasa. Olivier, vous êtes à Cucuit. Gardez la ligne, nous allons revenir à vous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site. Plusieurs propositions. exprimer votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour, JR.
C'est Pierrot et la Mégie, ingénieur. Voilà, merci, c'est bien. On est ensemble, JR, Pierrot et toutes les équipes qui animent les émissions interactives. Il n'y a pas de problème. Vous avez suivi les uns et les autres. On chemine vers les dernières propositions dans cette émission. Quel est votre point de vue, ingénieur Mangoyo?
Merci, Pierrot. Pierrot, cette affaire des climats des affaires, c'est un problème délicat. Délicat pourquoi? Et là, je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure, notre invité, qui disait que c'est une affaire de tout le monde. C'est vrai. Mais ici, il faut regretter une chose. Vous savez, je vais vous citer un exemple. Vous savez que la plupart des entreprises du portefeuille de l'État, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, c'est parce que justement, tous les investisseurs qui arrivent, les partenaires qui arrivent, qui tentent de collaborer ou d'essayer de lier des partenariats avec toutes ces entreprises-là, mais sont découragés par des pratiques qui ne sont pas tellement bonnes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et lorsque vous regardez notre Parlement, parce qu'ici, comme l'a dit notre invité là, c'est l'affaire de tout le monde, c'est vrai, même la société civile doit être impliquée, c'est vrai, et là, je vois plutôt les syndicalistes, par exemple, mais dans un premier temps, lorsque vous regardez ce qui se passe au Parlement, les syndicalistes peuvent beau dénoncer, par exemple, au niveau des entreprises du portefeuille de l'État, peuvent beau dénoncer des pratiques de corruption, mais au niveau des dirigeants, au niveau des acteurs politiques, à ce niveau-là, je crois qu'il y a un problème sérieux d'éthique et de volonté politique. Alors, comment voulez-vous un député, par exemple, qui initie une question orale au niveau du Parlement, et les choses sont là, sont claires, tout le monde a vu, on a dénoncé, il initie une question orale au niveau du Parlement, et la majorité parlementaire ou la majorité présidentielle minimise cette question-là, et favorise justement la corruption. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne pas. Le jour où, Pierrot, on va commencer à sanctionner, vous verrez qu'il y a des gens qui vont se mettre au pas et nous allons en ce moment-là cheminer vers un développement durable et réel. Parce
merci
qu'on ne sanctionne pas.
Voilà. Merci. Monsieur Mangoy, on vous écoute parce qu'il y a aussi beaucoup de gens sur la ligne. Hein. Excusez-nous de pouvoir vous interrompre. On a déjà retenu quelque chose de très important sur ce que les autres avaient déjà dit. Vous avez ajouté le problème de sanctions qu'il faudrait aujourd'hui sanctionner. Et là, quand vous parlez de l'Assemblée nationale, c'est dans le sens où, si aujourd'hui, par exemple, il y a un ministre ou un mandataire ou quelqu'un qui est soupçonné de mégestion, invité au Parlement, qui est, c'est sérieux là de pouvoir l'écouter, de diligenter des missions de contrôle, des enquêtes, et s'il faut punir, que les personnes soient punies. Vous avez suivi l'honorable Moulangal qui est aussi revenu là-dessus, qu'il faudrait aujourd'hui que les contrôles soient effectifs et qu'il y ait des retombées de ces contrôles-là. Et c'est ce qui peut permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant et les autres personnes ne peuvent pas s'hasarder à commettre le même bêtise. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Nous allons écouter Olivier qui nous appelle Tekikuit dans la province de Bandundu. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur journaliste.
Nous tendons vers la fin de l'émission. Les derniers auditeurs ont l'avantage de pouvoir ramasser presque toutes les préoccupations et présenter d'ailleurs un point de vue qui est déjà, si je peux dire ainsi, comme une conclusion au nom des auditeurs. Vous avez suivi les uns et les autres, messieurs, par rapport à ces débats autour de l'amélioration du climat des affaires. Quel est votre point de vue?
Ben, merci beaucoup. Mais moi, je pense que nous avons un sérieux problème. L'invité vient de dire tout à l'heure que bon, c'est l'affaire de tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est comme dans une famille, la tête, c'est-à-dire, à ce qui nous concerne, le gouvernement doit avoir un plan bien établi et un plan qui sera suivi. Et pour que le plan soit suivi, en tout cas, vous remarquez que dans tous les pays du monde, ceux qui arrivent au gouvernement, ils doivent d'abord individuellement avoir une façon de voir les choses. On ne doit pas dire au gouvernement, ni dire, j'apprendrai à faire le travail là-bas. Non, ça c'est une chose. Et vous verrez que dans tous ces pays du monde, et je prends l'exemple des États-Unis aujourd'hui avec la réélection de Obama, il a déjà dit ce qu'il pourra faire. Et il va mettre les mécanismes en place pour suivre, pour faire le suivi de son programme. Alors, chez nous, le problème, c'est quoi? Il y a d'abord un problème de sécurité de manière générale, comme on l'a déjà dit. Et nous sommes dans un pays où le secteur tertiaire est pratiquement inexistant, ou bien existe, mais ne fonctionne pratiquement pas. Ici, je pense à l'administration. Nous avons une des administrations les plus médiocres du monde. Vous prenez le système bancaire. C'est un des systèmes les plus médiocres. Et dans beaucoup de provinces, les banques n'existent pas ou n'existent plus. Vous avez le commerce de manière générale, avec l'état des routes qui laisse à désirer. Le commerce, c'est un commerce de poules, commerce de maïs, et ainsi de suite. Alors, si vous voulez que les investisseurs viennent, les investisseurs tiennent compte aussi du pouvoir d'achat. Sinon, nous aurons toujours des industries comme l'industrie du sachet. L'industrie du sachet, et c'est ce sachet-là que la population est en mesure d'acheter. Des sachets qui posent des problèmes environnementaux. Donc, nous sommes en train de favoriser une industrie, au fait, qui n'apporte rien à la nation. Alors, si nous voulons qu'il y ait un secteur secondaire, donc une industrie de transformation qui soit fiable, il faudrait d'abord que le pays lui-même ait ses propres industries. Il faudrait que le pays lui-même ait... Or, vous savez que de ce côté-là, toutes les entreprises du portefeuille ne fonctionnent pas. Le portefeuille du pays, vous prenez toutes les sociétés, vous prenez la Gécamine, la Régie des Eaux,
la Régie de la Snelle, voilà, oui. Terminez rapidement, Olivier, en 20 secondes, oui. Terminez rapidement,
vous allez chercher dans le budget de l'État, on vous dit non, nous n'avons rien, parce que ces entreprises-là n'ont rien donné. Ça signifie qu'il y a un problème de ce côté-là. Le secteur primaire, on a l'impression que le gouvernement ne s'en occupe pas. L'agriculture n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'investisseur étranger vienne faire? Parce que nous ne serons pas en mesure d'acheter une Rolls-Royce.
Voilà, oui, merci Olivier, on a des petits soucis apparemment avec vous, bah, dommage, on est en train de terminer cette émission, mais ce que vous avez dit, c'est très important, hein, Olivier, des Kikuiteurs, on vous a suivi, vous avez insisté sur le programme qui doit être déjà préétabli par le gouvernement, les membres du gouvernement doivent déjà avoir ça, quand ils accèdent bien sûr à toutes ces fonctions, mais vous avez évoqué tous ces problèmes au niveau de tous ces secteurs qu'il faut aujourd'hui travailler, considérer aujourd'hui qu'il faut renforcer l'administration publique, il faut les systèmes bancaires, il faut le pouvoir d'achat, il faut des avoir aussi les industries locales, mais il faut le pouvoir d'achat pour permettre à ce que les grandes industries peuvent s'installer, peuvent permettre, n'est-ce pas, à ce que les Congolais puissent avoir accès à ces marchés-là. Voilà autant de problèmes qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place pour atteindre ce que nous voulons dans l'amélioration des climats des affaires. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. En 45 secondes, on vous écoute votre point de vue.
Oui, Pierrot, bonjour.
Bonjour.
Moi je voudrais dire que je suis d'accord avec votre invité où il a là où il a souligné que il y a un problème de la volonté des volontés plutôt politique et que cette volonté politique c'est une affaire de tous. Mais moi je lui dirais que là je ne suis pas d'accord avec lui. Là où il dira que le gouvernement actuel, le premier ministre démontre cette volonté politique. Pourtant s'il y avait une volonté politique, on devrait normalement le percevoir. Hein, sur le plan pratique. Mais quand chaque jour, on nous parle de la stabilité macroéconomique, taux d'échange, mais dans le budget, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'on fait des dépenses, plutôt des recettes à hauteur de 3 milliards, et on projette des dépenses à hauteur de 7 milliards. C'est vraiment l'irresponsabilité d'un gouvernement. Ce qu'on veut, on veut avoir un gouvernement responsable de ses actes et respecté de l'opinion publique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle du Ghana, on dit que le Ghana, c'est le pays le mieux géré en Afrique. Pourquoi? Parce que les Ghana associent la société civile, l'opposition comme la majorité, quand il s'agit des problèmes de la gestion de la Respublica. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit chez nous? Il y a quelqu'un, donc un groupe de gens, d'individus, qui pensent que non, ils détiennent quand même le monopole sur les autres, ils peuvent gérer à leur propre gré. Voilà, c'est le problème qui tue notre pays ici.
Voilà, merci beaucoup Maurice. On va terminer et par là pour les auditeurs le temps de donner à notre invité pour réagir d'une manière plus brève et conclure cette émission. Vous avez dit qu'il y a le problème de la volonté politique, oui, mais l'affaire de tous, là vous n'êtes pas d'accord parce que la perte de tous, oui, mais la volonté politique, vous pensez que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Il y a ceux qui gèrent de leur propre gré sans pouvoir associer les autres personnes. On revient à vous, Monsieur Janvier Kiambou. On a suivi les uns et les autres. Les débats étaient très intéressants, très enrichissants. descendre. On a besoin de conclure cette émission en 2 minutes et demie. Eu regard à tout ce qui a été dit, parce que nous devons nous projeter dans l'avenir, le prochain rapport, pensez-vous que la situation peut s'améliorer et la RDC pourra gagner à quelques places eu égard aux réformes qui sont initiées aujourd'hui au niveau du pouvoir public?
Merci, monsieur le journaliste. Un, je voudrais corriger ce que dit notre ami Maurice. Je n'ai pas parlé de volonté politique qui doit être l'affaire de tous. Je disais, le processus d'amélioration du climat des affaires doit être pris en charge par tout le monde. J'ai aussi dit que l'un des facteurs déterminants pour la réussite d'un processus d'amélioration du climat des affaires, c'est une volonté politique clairement exprimée, une volonté politique affichée par le leadership politique. Et des amis comme monsieur l'ingénieur Mangoy ont parlé d'absence de transparence, de pratiques diverses qui découragent les partenaires, particulièrement dans les entreprises du portefeuille. Et sur ce point, je voudrais aussi dire effectivement qu'un processus d'amélioration du climat des affaires ne s'allie pas du tout avec la corruption et l'absence de transparence. Et donc, je suis d'accord avec lui, et je l'ai dit d'ailleurs, il faut absolument, par rapport à tout ce qui est fait, qu'on renforce la sanction. La sanction par rapport aux actes éventuels d'absence de transparence ou de corruption qui pourraient exister au sein des administrations. C'est des facteurs donc importants qui renforcent l'amélioration du climat des affaires. Absence de corruption, absence de transparence, et c'est pour cette raison que nous recommandons, nous, qu'on affiche les réformes qui sont menées.
Merci.
Qu'on affiche particulièrement les procédures et le coût de manière assez...
Oui, il y a les
types... parce qu'il connaît. Lorsqu'il se renseigne, on lui dira mille et une choses, on lui parlera de l'existence d'une procédure express et d'une procédure ordinaire.
Merci beaucoup.
C'est pas ça.
Voilà.
Alors, je disais que nous fondons notre espoir que sur le rapport Doing Business, on ne va pas manquer de gagner de position.
Voilà.
C'est vrai.
Merci.
Plusieurs
merci
réformes
merci
n'ont
beaucoup,
pas été
monsieur
prises
Janvier.
En compte. Je parle de la thèse.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Janvier Kiambou. C'est par là que nous terminons cette émission par aux auditeurs en disant merci à tout le monde. Au revoir. Le programme continue sur Radio Capi.